Ärztinne, battement de cœur, le podcast de la Fédération Suisse des Sages-Femmes. Je suis Jeanne Rey et je rencontre aujourd'hui Patricia Pernoud, sage-femme enseignante et chercheuse en anthropologie. Dans cet épisode, elle détaille ce que les sciences humaines et sociales ont à apporter à la pratique sage-femme et surtout, elle explique pourquoi la recherche est primordiale pour la profession. Bonjour Patricia, est-ce que tu peux te présenter et présenter tes activités actuelles?
Alors Patricia Pernoud, donc je suis sage-femme depuis 91. J'ai d'abord fait une carrière en maternité universitaire à Genève. Et puis je travaille depuis 20 ans à la Haute École de Santé Vaud, donc à SAV, comme enseignante et chercheure. Donc je suis socio-anthropologue et puis je travaille essentiellement avec des méthodes qualitatives. Mes sujets de prédilection, c'est vraiment soit la santé en fait des populations minorisées comme les femmes immigrantes, ou alors comment les sages-femmes construisent en fait leur savoir à partir de leur expérience. Et j'utilise des outils anthropologiques pour cela.
Qu'est-ce qui t'a amené toi en tant que sage-femme à faire de la recherche?
Peut-être parce que je suis un peu une curieuse insatiable et que j'aime beaucoup lire, parce que faire de la recherche, c'est avant tout beaucoup lire. C'est-à-dire que avant de produire, il faut vraiment pouvoir s'informer beaucoup, être curieux de ce que font les autres et puis se relier. C'est vraiment une entreprise collective où on va se nourrir mutuellement en fait des réflexions des uns et des autres. Ensuite, ce qui m'a concrètement amenée à vouloir faire de la recherche, c'était de me rendre compte à un moment donné dans ma carrière que, de sage-femme, que beaucoup des connaissances qu'on construit, en fait, le sont uniquement à partir des points de vue des femmes de classe moyenne. Et c'est quelque chose qui, très tôt dans ma carrière, m'a interpellée parce que je me demandais à l'époque, mais où sont les femmes qui vivent dans d'autres conditions, dans nos manières de voir? Et je voyais bien en fait le biais que ça allait produire, c'est-à-dire qu'on allait avoir les expériences justement de femmes qui vivent dans des conditions quand même relativement privilégiées et on allait se priver des expériences d'autres femmes dans notre manière de comprendre la maternité. Ou alors on allait concevoir par exemple des interventions notamment psychosociales ou de prévention, de promotion de la santé, en les évaluant uniquement auprès de femmes de classe moyenne. Et sans se poser la question de savoir est-ce que ces interventions sont accessibles et adéquates pour d'autres femmes, d'autres personnes. Et c'est ça qui m'a amenée en anthropologie.
En parlant de ces femmes immigrantes notamment, tu viens de publier un article concernant une recherche sur l'utilisation des médias sociaux, c'est ça? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les résultats de cette recherche?
L'axe principal, c'était d'enquêter auprès de ces femmes sur leur stratégie d'auto-information avec les téléphones portables, c'est-à-dire comment elles les utilisent pour chercher de l'information sur les soins autour de la naissance, la maternité, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont les barrières en fait à leur stratégie d'auto-information. C'est une recherche socio-anthropologique, mais elle est intéressante pour la pratique. Parce qu'à partir du moment où on connaît mieux les stratégies et les pratiques des femmes et de toutes les femmes, hein, là aussi justement les femmes immigrantes comme les autres, en termes de recherche d'informations sur Internet, sur les applications mobiles, sur les réseaux sociaux, ça nous permet aussi de mieux concrétiser comment, en tant que sage-femme, on peut parler de ces sujets. Les femmes nous ont beaucoup dit dans notre recherche qu'elles souhaitaient en fait pouvoir discuter avec leur sage-femme des informations qu'elles avaient trouvées sur les réseaux sociaux. Et ces femmes voyaient ces moyens d'information comme étant très complémentaires. Et la plupart du temps, elles faisaient évidemment vraiment confiance aux professionnels, mais elles avaient peu eu l'occasion d'en discuter. Peut-être parce que nous, professionnels, par exemple, on a quand même, enfin, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans notre recherche, hein, quelques préjugés par rapport aux pratiques autonomes de recherche d'information, en fait, des femmes ou des familles sur Internet. Et ça n'a pas l'air d'être devenu un sujet de conversation banal quotidien, par exemple en préparation à la naissance, en consultation de grossesse. De quelles informations vous avez besoin? Est-ce que vous êtes déjà allé chercher sur des applications ou sur des sites internet? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment c'était pour vous? Qu'est-ce que vous avez pu en faire? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Etc, etc. Et ça, à une période où le numérique, en fait, a envahi nos vies, hein, on est toutes sur nos téléphones portables, à part celles qui savent résister, mais il y en a peu, hein, en tout cas, j'en fais pas partie. Le numérique fait partie de nos vies et doit être intégré aussi, ben, aux soins, et pas seulement Il y a des tendances aujourd'hui où nous, les professionnels, on crée des applications, où on crée des moyens d'information. Alors, ça peut être bien, ça peut être utile. Les femmes le demandent d'ailleurs. Mais il faut aussi prendre, comme on fait d'habitude en fait sur les autres sujets, prendre les femmes là où elles sont et voir si on peut leur être utile dans leur démarche d'auto-information ou pas. Mais pour le savoir, il faut une conversation.
Alors, tu l'as dit, tu fais de la recherche principalement qualitative. Ça peut donner l'impression pour quelqu'un de l'extérieur qu'on se pose quand même beaucoup trop de questions pour finalement pas grand-chose ou pour des sujets très, très particuliers. Est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, l'apport que les sciences humaines et sociales peuvent avoir pour la pratique sage-femme?
Alors, c'est une discipline académique. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie où les sciences humaines et sociales, elles travaillent pour elles-mêmes. Donc pour produire du savoir, et il y a une recherche d'évolution qui concerne le champ particulier. Et dans cette recherche, le public n'est pas forcément présent, prévu. Ou c'est le public, l'entre-soi. Ça existe, et c'est vrai que parfois on peut tomber sur des textes de socio-anthropologues où on voit vraiment pas qu'est-ce que ça peut nous amener comme sage-femme. Mais à chaque fois qu'une sage-femme, ou qu'une infirmière, ou qu'un médecin a un dada, un sujet qui l'intéresse, qui le mobilise, pour lequel on a envie de s'investir, créer de nouvelles, par exemple, de nouvelles pratiques, de nouvelles prestations, il faut savoir qu'il y a au moins un socio-anthropologue qui s'y intéresse aussi, et en général c'est plutôt une dizaine de personnes. On s'intéresse à la prévention de l'obésité. Oui, c'est les fat studies, c'est un champ de recherche en socio-anthropologie. On va s'intéresser, nous les sages-femmes, on a beaucoup réfléchi autour de la question de la médicalisation, technicisation, du risque, de leur implication en fait dans ce qu'on faisait, dans la manière dont on allait accompagner les naissances. Eh bien, c'est un champ immense en fait de la socio-anthropologie, de la reproduction. Et ça veut dire deux choses. Premièrement, ça peut aussi confirmer en fait beaucoup de réflexions que nous-mêmes nous avons eues. Donc on peut les nourrir avec celles d'autres chercheurs et se dire, on n'est quand même pas tout à fait à l'ouest, il y a des choses qu'on a vues, elles sont bien là, et d'autres les ont vues, et ces autres n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et donc, on n'est plus dans cette idée qu'on est juste en train de défendre notre pratique, mais on est vraiment en face, en fait, de phénomènes qui sont observables et observés par d'autres, qui n'ont pas d'intérêt particulier à nous défendre, par exemple. Et ensuite, comme par exemple la sociologie du risque, il y a des dizaines de chercheurs dont c'est la carrière de faire de la sociologie du risque, et donc ces chercheurs-là, ils vont plus loin que nous dans leurs réflexions. Et en les lisant, je pense à Deborah Lupton ou à Solène Gouillard qui écrivent de manière très claire, limpide, qui cherche à atteindre un public plus vaste, sont accessibles pour nous et nous permettent d'aller plus loin dans nos réflexions et de progresser, de nourrir notre réflexivité. Et alors, évidemment, que ces recherches en socio-anthropologie, elles adoptent souvent un point de vue critique, qui ne veut pas nécessairement dire négatif, mais c'est-à-dire elles adoptent une distance par rapport à ce qu'elles observent de nos pratiques, par exemple, ou de nos représentations, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas pour objectif de nous plaire. Et parfois, elles peuvent mettre en évidence des pratiques qui sont problématiques. Par exemple, dans notre dernière recherche, et dans la recherche de plusieurs autres auteurs en Suisse, en France et ailleurs, plusieurs sages-femmes ont partagé qu'elles pensaient, par exemple, que les femmes étrangères, immigrantes, et en particulier les femmes originaires des pays d'Afrique, cherchaient moins d'informations, avaient moins besoin d'informations, qu'elles étaient plus instinctive ou plus naturelle. Et il y avait une espèce de préjugé positif. Et en fait, les femmes qui sont étrangères, elles ont aussi des questions autour de la maternité, elles ont aussi besoin d'informations. La manière dont elles vont pouvoir vivre leur maternité dépend des conditions matérielles dans lesquelles elles vivent, mais aussi de l'entourage qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas ici. Et elles peuvent rencontrer des difficultés avec l'allaitement, avec la nutrition, avec le maternage, comme les autres femmes. Et ce préjugé, en fait, qui vise à les voir comme étant beaucoup plus instinctives, fait que parfois, en fait, leurs besoins ne sont pas identifiés tout de suite, et c'est quelque chose qui a été mis en évidence dans plusieurs recherches. Et c'est quelque chose que nous devons corriger, c'est-à-dire que nous devons aller vérifier finalement auprès de chaque femme, si besoin avec des traducteurs et des traductrices, quels sont leurs besoins, où est-ce qu'elles en sont, et comment est-ce qu'on peut leur venir en aide.
Avec des collègues socio-anthropologues, vous venez d'obtenir un financement pour un projet de recherche de 4 ans par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Sur quoi va porter ce projet ?
Alors, notre projet porte sur les controverses autour du sujet des violences obstétricales qui existent dans l'espace public maintenant depuis une dizaine d'années et qui questionnent notamment les pratiques des médecins et des sages-femmes. On a plusieurs objectifs. Le premier, déjà, c'est de faire le point sur qui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les journaux scientifiques, dans le monde politique, ce qu'on appelle nous les arènes, qui parlent en fait des violences obstétricales, depuis quel point de vue et pour en dire quoi, pour pouvoir faire le point en fait sur justement les controverses, les points de divergence en fait à ce sujet. Ensuite, on va aller voir, donc faire une ethnographie, donc faire des observations dans plusieurs lieux de pratique, dans des maternités qui ont aimablement accepté d'être nos partenaires de recherche, pour voir en fait comment, en pratique, finalement, on réagit à ce phénomène. Et on a aujourd'hui plusieurs maternités qui ont créé, en fait, des dispositifs dédiés, qui sont souvent nommés comme des dispositifs pour améliorer le vécu, prévenir les mauvais vécus, ou bien guérir ou améliorer, en fait, quand il y a des vécus qui sont douloureux ou quand il y a des femmes ou des couples, des personnes qui ont la sensation ou qui, pour elles, ont vécu ce qu'elles appelleraient elles-mêmes des violences obstétricales. Et donc là, on va aller observer ce qui se passe, mais aussi prêter attention, en fait, à ce que les professionnels, donc notamment les obstétriciens et les sages-femmes, peuvent nous dire, en fait, de cette question des violences obstétricales, parce que dans les recherches qui ont été faites jusqu'à présent, même si ça commence à bouger un tout petit peu, on a encore été peu chercher, en fait, les positions des professionnels. Donc, on ne va pas se dédier à un seul type d'acteur, mais à tous les acteurs qui sont concernés, donc aussi les sages-femmes et les obstétriciens, aussi les femmes, les personnes, les couples, et pas seulement ceux de classe moyenne, mais ceux qui sont aussi également minorisés.
Finalement, pourquoi est-il important que les sages-femmes s'emparent de la recherche ou même fassent leur propre recherche ?
Nos expériences de sages-femmes, en fait, elles sont uniques. À chaque fois qu'on a, en tant qu'être humain, en tant que femme, personne, une expérience singulière, c'est-à-dire dans une profession, mais aussi dans nos vies, on va savoir ou avoir des questions qui sont différentes d'acteurs sociaux, comme les médecins par exemple, qui ont une autre activité et qui ont une autre expérience. Et ça veut dire qu'à partir de ces points de vue-là, on va pouvoir produire une recherche qui est différente a priori. Et c'est pour ça que c'est important que beaucoup d'entre nous en fait deviennent chercheurs. Alors, on sera toujours une minorité dans la profession, mais on va partir justement de ces expériences singulières, ce qu'on appelle le positionnement, qui nous permet de voir différemment et de contribuer en fait au débat et aux réflexions sur la période de reproduction.
Mais finalement, qu'il s'agisse de recherche en sciences humaines ou touchant à des sujets plus médicaux en fait.
Tout à fait, parce qu'il y a des questions de recherche qu'on ne posera pas ou des sujets qui n'apparaîtront pas. L'exemple qui me vient en tête, c'est, j'ai pas regardé la dernière version, mais très longtemps, par exemple, dans le Williams Obstetrics, qui est l'ouvrage d'obstétrique le plus connu sur la planète, qui est une grosse référence américaine, quand on regarde le suivi de l'accouchement, par exemple, il y a plusieurs thèmes qui sont pourtant essentiels, qui ne sont pas abordés. Par exemple, le moment des poussées, c'était pas un sujet. La manière dont on accompagne les poussées, par exemple, c'est pas un sujet non plus. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'objet de controverses aussi. Est-ce que nos manières de faire, c'est vraiment ce qui aide le plus ? Ou est-ce que c'est ce qui contribue le plus à la physiologie de l'accouchement ? Et là, typiquement, on a la création de points aveugles. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont nos sujets et qui n'obtiennent pas d'attention en recherche parce que on n'a pas les mêmes activités. Et donc, faire de la recherche en tant que sage-femme ou en tant qu'infirmière ou physio, ça permet, pour autant qu'on prête vraiment aussi attention à quels sont nos sujets, c'est encore une autre chose, d'aller débusquer certains de ces points aveugles et puis de s'y intéresser. Parce que, par exemple, les manières de pousser, c'est un sujet qui m'intéresserait beaucoup. Je pense que il y a vraiment des choses à aller résoudre là autour.
Pour conclure, est-ce que, à toi, le terrain de sage-femme, la sage-femmerie pure ne te manque pas?
Oui, ça me manque beaucoup. Et souvent, quand je commence une recherche et que j'arrive sur un terrain, en fait, c'est presque cruel. J'aimerais être à deux places en même temps et je pense que j'aurai toujours le regret de ne pas avoir été sage-femme indépendante, de ne pas avoir fait de postpartum à domicile. Mais par contre, l'intérêt d'être chercheur et d'utiliser les méthodes qualitatives en particulier, ça me permet d'être au contact en fait de beaucoup de sages-femmes et je me sers de ce regard collectif en fait pour essayer de garder en moi les points de vue de différents types de sages-femmes et de sages-femmes qui sont dans des situations ou des lieux de pratique qui sont différents. Et à ce titre-là, je trouve que ça c'est assez intéressant quand même parce que je me sens vraiment enrichie en fait de toutes ces conversations que j'ai pu avoir avec des collègues qui m'ont énormément nourrie et à qui je serai pour toujours reconnaissante. Et la même chose avec les familles, évidemment.
Herzstone, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.